Bienvenue au balado « Tirer le meilleur de la recherche collégiale » qui vous est présenté par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec et l'Association pour la recherche au collégial.
Animé par Lynn Lapostole, la directrice générale de l'ARC, ces rencontres ont pour objectif de faire connaître le travail de chercheuses et de chercheurs de collèges impliqués dans le projet « Tirer le meilleur de la recherche collégiale » afin d'améliorer la réussite éducative.
Exceptionnellement, l'épisode d'aujourd'hui vise plutôt à faire connaître le travail de l'une des deux équipes de recherche associées au projet, l'équipe Renard. La parole sera donnée au professeur Christian Dagenais, du département de psychologie de l'Université de Montréal, chercheur principal dans cette équipe.
L'acronyme Renard signifie « équipe de recherche sur les effets non académiques de la recherche et ses déterminants ». L'équipe Renard est le premier regroupement transdisciplinaire québécois consacré à la recherche sur le transfert des connaissances dans le domaine des interventions sociales.
Voici la rencontre entre Lynn Lapostole et Christian Dagenais. Bonne écoute.
Bonjour Christian. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du projet, mon invitation à moi personnellement, pour qu'on prenne un peu de temps ensemble afin de discuter de l'équipe Renard, qu'on en sache un petit peu plus sur l'équipe et ses travaux, et parler aussi du transfert de connaissances.
Ben, c'est moi qui te remercie, Lynn, parce que tu me connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que parler de l'équipe Renard et parler du transfert de connaissances, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours plaisir. Et puis, tu risques de devoir m'arrêter des fois parce que je vais être certainement assez éloquent, j'espère en tout cas.
Tout le plaisir est pour moi et je suis convaincue d'avance que nous allons passer un très agréable moment pour nous et pour les gens qui vont nous écouter.
Le plaisir sera partagé.
Alors, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous dire quelques mots au sujet de l'équipe Renard? On dit équipe Renard, mais quel est le statut de cette équipe?
Ben, écoute, moi, mon poste a été créé à l'Université de Montréal en 2004 et ce poste-là était spécifiquement dédié à la recherche sur le transfert de connaissances. Et c'est en 2007 que j'ai commencé à travailler à la mise en place d'une équipe de recherche sur le transfert de connaissances. Et à partir de 2009, on a été financé par le Fonds québécois de recherche Société Culture. C'est une subvention d'infrastructure, donc ce n'est pas une subvention qui sert à financer des projets de recherche comme tels, mais à soutenir les travaux d'une équipe. Et comme c'est une équipe de recherche en partenariat avec des milieux de pratique, je pourrais donner un peu plus de détails tout à l'heure sur la composition de cette équipe-là. Bien, comme elle est en partenariat avec des milieux de pratique, mais que c'est une équipe de recherche, elle doit relever un double défi qui est de faire avancer à la fois, la science du transfert de connaissances et les pratiques de transfert de connaissances de ses partenaires. Donc, l'équipe, elle est composée actuellement de plus d'une cinquantaine de membres, dont une quinzaine sont des chercheurs de toutes les institutions universitaires québécoises et des collèges, et aussi d'organismes de transfert de connaissances ou dont une partie de la mission porte sur le transfert de connaissances, par exemple les centres intégrés universitaires de santé et services sociaux, l'Institut national de santé publique du Québec, des commissions scolaires sont des partenaires de notre équipe. Donc, c'est à peu près à part égale entre les chercheurs d'un côté et des partenaires des milieux de pratique de l'autre. Et s'ajoute à ça une vingtaine, ça varie d'une année à l'autre, là, d'étudiants et d'étudiantes qui font tous une maîtrise ou une thèse sur le sujet du transfert de connaissances.
Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur cette équipe et sur sa composition, est-ce que tu pourrais me dire comment est né ton questionnement à propos du transfert de connaissances? Tu as été embauché, tu l'as dit tantôt, pour mettre sur pied une équipe qui se spécialiserait dans ce domaine-là, mais toi, ça vient d'où ce questionnement?
Ça vient de loin, en fait, ça vient des années 80, alors que j'étais intervenant social, je travaillais auprès de jeunes en protection de la jeunesse ou de jeunes délinquants. Et pendant 12 ans, j'ai travaillé auprès d'eux en me basant essentiellement sur les intuitions que j'avais qui permettraient de solutionner le problème. Bien sûr, on travaillait en équipe, il y avait l'expérience de tout le monde qui était prise en ligne de compte, mais je me disais qu'il y avait peut-être moyen d'être un peu plus éclairé par des résultats de recherche qui nous permettraient de nous guider dans nos interventions auprès de ces clientèles-là. Donc, j'ai travaillé pendant 12 ans comme ça et j'ai décidé de retourner aux études à 30 ans pour aller faire mon doctorat et faire de la recherche qui nous permettrait d'éclairer les pratiques. D'ailleurs, ma thèse portait sur l'intervention en situation de crise en protection de la jeunesse. J'étais toujours proche de mes intérêts, puis j'essayais, par les activités menées dans le cadre de ma thèse, de soutenir les pratiques des intervenants de la protection de la jeunesse avec qui je menais ces activités de recherche-là. Et une fois que j'ai obtenu mon doctorat, j'ai été pendant, après ça, 2 ans au ministère de la Santé à Québec, où j'avais à tirer les leçons de 40 projets financés par Santé Canada, qui étaient tous évalués, puis on voulait faire un bilan de ça. Donc, c'était quels sont les principaux résultats qui pourraient servir dans le domaine par la suite. Quand mon poste a été créé en 2004, j'ai vraiment été extrêmement heureux d'appliquer puis d'obtenir ce poste-là.
Sachant cela, sachant un peu mieux, toi, quel est ton parcours et comment est née l'équipe, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les travaux qu'elle mène?
Il y a 4 axes de recherche dans notre programmation. Le premier porte sur quelles sont les conditions qui vont faire en sorte ou qui vont entraver l'utilisation de la recherche. Donc, on travaille, on évalue des stratégies de transfert de connaissances, des activités de transfert de connaissances, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ces efforts-là de transfert de connaissances ont mené à une utilisation ou qu'est-ce qui a empêché cette utilisation-là éventuellement. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet porte sur l'efficacité des stratégies de transfert. Donc, là, on ne se questionne pas sur qu'est-ce qui fait que ça marche ou si ça ne marche pas. On se demande si ça marche et à quelles conditions. Le troisième volet porte sur les développements méthodologiques parce que la science du transfert est encore relativement jeune. Les approches de recherche doivent être adaptées et des outils d'évaluation, des instruments d'évaluation de recherche doivent être développés. On a donc un volet qui porte là-dessus. Et le quatrième porte sur le développement des compétences des chercheurs et des utilisateurs pour utiliser la recherche. Et c'est pour ça qu'on a élaboré au cours des dernières années, des modules de formation sur le transfert de connaissances qu'on a mis en ligne finalement. On a élaboré ça sous forme de MOOC là, pour Massive Online Open Course. Et donc, on a élaboré 2 modules de formation sur le transfert de connaissances et on a un troisième qui va être en ligne avant le printemps. Là.
Merci beaucoup pour ça. Et je trouve que ça place bien les choses pour commencer à parler du transfert de connaissances, justement. Et si tu me le permets, je te demanderais tout d'abord de distinguer diffusion et transfert de connaissances que bien des gens confondent.
Oui, effectivement, il y a une confusion importante autour de ça. En fait, la diffusion, c'est un transfert passif, finalement. C'est quand on communique des résultats de recherche par des moyens plus ou moins traditionnels, comme des articles scientifiques ou des notes de politique ou des résumés de recherche, mais sans qu'il y ait un effort pour rejoindre des publics cibles en particulier. Et souvent, la diffusion de résultats de recherche se fait au sein de la communauté scientifique. Donc, quand on va parler, par exemple, de publications scientifiques ou de congrès, colloques scientifiques, symposiums, on parle plus de diffusion parce qu'on reste dans notre réseau de pairs, alors que quand on parle de transfert de connaissances, c'est quand on cherche à sortir du monde académique pour aller vers des utilisateurs qui sont des intervenants ou des décideurs ou la population en général.
Merci, je pense que ça va éclairer bien des gens. Peux-tu maintenant... On va rajouter un autre élément à ce qu'on est en train de construire. Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes du processus de transfert des connaissances?
Oui, mais des étapes, il y en a une multitude. Puis ces étapes-là sont décrites dans des modèles de transfert de connaissances. Puis déjà en 2006, on en avait recensé 60 modèles de transfert comme ça. Celui qui m'apparaît le plus intéressant et le plus explicite peut-être, c'est celui qui a été développé par l'Institut national de santé publique déjà en 2009, 2010 et révisé en 2012. Mais dans ce modèle-là, on part de la production ou de la coproduction des connaissances scientifiques. Puis après, il y a une série d'étapes à traverser pour mener jusqu'à l'utilisation. La première, et c'est une étape qui est cruciale, c'est l'adaptation des connaissances. Parce que on est comme chercheur, on est formé pour s'adresser à nos pairs. Donc, quand on fait une présentation scientifique, on présente l'ensemble des résultats de recherche qu'on a produits dans notre étude. Quand on s'adresse à des décideurs ou à des intervenants, ce n'est pas les mêmes informations qui les intéressent et ils n'ont pas nécessairement, puis souvent, ils n'ont pas de formation de base en recherche, donc pour comprendre le jargon des scientifiques qui vont utiliser toutes sortes de termes liés à la rigueur méthodologique et les présentations des chercheurs, souvent, l'essentiel de la communication porte sur la méthodologie de recherche, alors que ce n'est pas ça qui intéresse les intervenants et ce n'est pas ça qui intéresse non plus les décideurs. Puis c'est pas ça qui intéresse la population en général non plus. Les décideurs, ils vont être intéressés à savoir quelle est l'intervention la plus efficace au moindre coût. L'intervenant va être intéressé à savoir quelle est la manière de mettre en œuvre, d'appliquer ces résultats-là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que je vais pouvoir améliorer mes pratiques? Puis améliorer l'état de la clientèle avec qui je travaille. Puis la population va être intéressée par d'autres questions. Il faut donc transformer les résultats de recherche vraiment pour transmettre une information qui est pertinente aux yeux de l'utilisateur qui est ciblé, mais aussi dans un format qui est adapté à ses connaissances. Si on lui parle qu'on a fait une analyse de médiation par équation structurelle, même si on veut lui expliquer comment ça marche, ce truc-là, bien, peut-être qu'il va arriver à comprendre après un bon moment, mais peut-être qu'on va l'avoir perdu parce qu'on ne l'avait pas intéressé. Parce qu'on ne l'aura pas intéressé, pardon. L'étape suivante, qui est une étape tout aussi importante, tout aussi cruciale, c'est l'effort de diffusion, l'effort de transfert qu'on va mettre en place. Il faut aller rejoindre les utilisateurs potentiels. On a beau mettre sur nos sites web ou dans des infolettes des informations pertinentes, si on ne fait pas un effort pour rejoindre les personnes qu'on veut cibler, qu'on a ciblées, on risque de pas arriver à une utilisation. Donc, il faut s'assurer que les personnes qu'on a ciblées reçoivent l'information. On fait un effort de transfert pour que les gens reçoivent. Mais à partir du moment où on a mis sur un site web une information, on ne sait pas qui en a pris connaissance. Puis, s'ils en ont pris connaissance, on ne sait pas s'ils l'ont lu au complet ou s'ils l'ont lu juste partiellement parce que quand ils ont vu le résumé, ils ont décroché. Puis on ne sait pas s'ils ont lu au complet, s'ils sont d'accord avec le contenu. Puis s'ils sont d'accord avec le contenu, on ne sait pas s'ils sont en mesure de l'appliquer parce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les clés qu'il faut pour y arriver. Donc, ça, c'est l'étape de réception. Ensuite, c'est l'adoption. On décide qu'on va utiliser ça. Puis ensuite, il faut s'approprier les moyens de le mettre en œuvre. Et là, on arrive à l'utilisation. Donc, vous voyez, toutes les étapes qu'on doit traverser avant d'arriver à l'utilisation, et je les répète, c'est d'abord l'adaptation, ensuite la diffusion, les efforts de diffusion, la réception, l'adoption, l'appropriation et finalement l'utilisation.
En t'écoutant, je ne sais pas si ça m'avait frappé auparavant, mais en t'écoutant, je trouve qu'on est vraiment dans la mouvance de la recherche depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ce qu'on appelle par ailleurs le mode 2 de la recherche, où est-ce qu'on se soucie beaucoup justement de l'appropriation, de ce que certains appelleraient la mobilisation des connaissances aussi. Alors maintenant que tout un chacun peut se situer au regard des étapes du transfert des connaissances, est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre, dans le fond, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour le transfert des connaissances?
Oui, bien sûr. Écoute, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites sur les conditions d'utilisation de la recherche. J'ai parlé tantôt en présentant une espèce de modèle de transfert là, de choses qui devaient être faites, mais pour arriver à les faire, il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites pour identifier les conditions. Puis nous, au sein de l'équipe Renard, on a catégorisé ces conditions-là d'utilisation de la recherche ou ces facteurs qui influencent l'utilisation dans 5 grandes catégories. Puis il y en a une qui porte sur l'expertise individuelle qui est nécessaire pour repérer, interpréter et appliquer des résultats de recherche. Et ça, on ne peut pas demander ça à tout le monde. Dans une organisation, une commission scolaire, par exemple, on ne peut pas demander à tout le monde qui vont être appelés à par exemple, les conseils pédagogiques qui relèvent des commissions scolaires, on ne peut pas leur demander tous de développer cette expertise-là pour repérer, interpréter, parce qu'il faudrait qu'ils aient une bonne formation de base en recherche pour interpréter les résultats, parce que ça prend cette formation-là pour juger de la qualité d'une information qui a été produite par des chercheurs, autant pour la recherche qualitative que pour la recherche quantitative. Donc, ça prend quelqu'un qui a vraiment une solide formation en recherche. Mais au sein des organisations, de plus en plus, on trouve des personnes qui sont justement dédiées à cette tâche-là et qui sont recrutées avec un mandat de conseiller en transfert de connaissances ou de courtier de connaissances, qui est un concept qui est apparu il y a déjà presque 30 ans maintenant au Canada et maintenant dans vraiment beaucoup d'autres pays du monde. Mais ce courtier-là, qui est un intermédiaire, qui lui va aller chercher les besoins des utilisateurs, parce qu'on sait que pour que la recherche soit utilisée, il faut qu'on réponde à un besoin. Si on est dans une école en milieu défavorisé, puis qu'on a un gros problème de gestion de classe, puis beaucoup de troubles de comportement, puis tout ça, on a beau vouloir transférer le meilleur programme de nutrition qui existe, on risque de ne pas trouver preneur parce qu'on a d'autres problèmes plus urgents à régler que ça. Donc, répondre à un besoin, et le courtier de connaissances ou l'intermédiaire, il va chercher ces besoins-là d'information, puis après, il va voir du côté de la recherche s'il n'y a pas déjà des recherches qui ont été menées pour répondre à ces questions-là, ou sinon, s'il n'y a pas des chercheurs intéressés à mener des études pour répondre aux questions que se posent les milieux utilisateurs. Donc, ces compétences-là, pour faire du transfert, bien, les courtiers de connaissances, ils doivent en disposer, mais il y a beaucoup de gens dans des organisations qui peuvent le faire. Ensuite, il y a les caractéristiques des utilisateurs qui sont vraiment importantes à prendre en considération. Si les gens dans un milieu considèrent que la recherche, c'est, vous allez me passer l'expression, du pelletage de nuages ou des activités de chercheurs dans leur tour d'ivoire qui ne comprennent rien à ce qui se passe sur le terrain, bien, si les gens dans ce milieu-là ont cette opinion-là, il y a peu de chances qu'ils aient envie de nous écouter quand on leur parle de recherche et de résultats de recherche qui pourraient leur être utiles. Donc, les caractéristiques des utilisateurs, les expériences qu'ils ont vécues avec des chercheurs qui sont venus collecter des données puis qui n'ont jamais rapporté les résultats, tout ça, ça fait en sorte que ça peut empêcher les connaissances d'être utilisées. Il y a les caractéristiques du milieu organisationnel aussi. Est-ce qu'on est dans un milieu qui est ouvert à la recherche? Puis ça, ta question portait sur les compétences, là, mais les compétences d'un milieu pour mettre à jour ces pratiques, c'est important à prendre en ligne de compte. Puis s'il n'y a pas un message clair de la haute direction à l'effet que les décisions dans cette organisation-ci doivent à tout le moins avoir été éclairées par la recherche, donc pas nécessairement basées sur la recherche, mais qu'on a tenu compte, on a essayé de voir est-ce qu'il existe quelque chose, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites qui nous permettraient de solutionner le problème qu'on a. Donc, ces caractéristiques-là. Évidemment, les caractéristiques des stratégies de transfert, mais ça ne réfère pas aux compétences des utilisateurs. Mais par contre, les caractéristiques du chercheur, ça, c'est un truc qui est vraiment important. Comme je le disais tantôt, les chercheurs ne sont pas formés pour s'adresser à des gens en dehors du monde académique, en fait. Ils sont formés pour s'adresser à leurs pairs. Je me rappelle quand j'ai commencé mon doctorat, puis j'essayais d'expliquer à ma maman sur quoi j'allais travailler, puis comment j'allais m'y prendre. Ça a pris un certain temps avant que j'arrive à bien lui montrer, pas comment j'arriverais à ces résultats, aux résultats de ma thèse, mais ce que je visais à produire pendant ma thèse. Et là, elle a compris. Puis c'est pareil avec tous les résultats de recherche. Et là, je m'écarte un peu de ta question, Lynn, mais je pense que c'est important de le mentionner. Tu sais, il y a des différences de culture importantes entre les producteurs de connaissances et les utilisateurs de ces connaissances-là. Puis le plus bel exemple qu'on peut prendre, c'est quoi le premier critère sur lequel va s'appuyer un chercheur pour juger de la qualité d'une information? C'est la rigueur qui a été déployée pour produire ce résultat-là. Ça va être son premier critère de qualité. Mais dans un milieu de pratique, pour un gestionnaire d'établissement de service, le premier critère de qualité d'une information, ce n'est pas nécessairement la rigueur, même si elle a son importance, mais c'est son applicabilité. Tu as beau avoir le meilleur résultat de recherche et tu ne sais pas quoi faire avec, ce n'est pas une information qui est valable pour toi. Donc, les caractéristiques du chercheur qui doivent ou bien développer ces compétences-là pour transformer leurs résultats de recherche, pour les adapter puis pour cibler les bons publics. Ces caractéristiques-là du chercheur, par rapport à la capacité à adapter ces résultats de recherche puis à les transformer dans un format adapté au public qui sont ciblés, ben, ou bien ils apprennent à le faire, ou bien ils s'entourent de gens pour le faire. Puis dans les bonnes équipes de recherche, non, en fait, ce n'est pas les bonnes équipes de recherche, c'est dans les équipes de recherche bien financées. Souvent, on a des ressources pour embaucher quelqu'un qui va faire des infographies pour présenter nos résultats de recherche, qui va organiser des ateliers délibératifs autour des résultats d'une recherche pour voir comment c'est applicable dans le contexte des utilisateurs et tout ça. Donc, ou bien les chercheurs développent ces habiletés-là, puis il y en a qui l'ont fait, puis il y en a qui le font très, très bien. Il y en a de plus en plus qui le font très, très bien, mais encore tout un chemin à parcourir avant d'arriver à quelque chose de plus généralisé. Et là, je ne parle pas de généraliser le transfert de connaissances à toute la recherche qui est produite, parce que quand on travaille sur les cellules souches ou quand on travaille en recherche fondamentale de façon générale, les résultats qui sont produits ne sont pas nécessairement pertinents à transférer à la population ou à des gestionnaires ou à des intervenants. Mais il y a vraiment beaucoup de recherches qui pourraient être utiles en dehors du monde académique puis qu'il ne l'est pas parce que les efforts pour amener vers les utilisateurs potentiels ces informations-là ne sont pas faits.
Alors, tu m'ouvres bien la porte pour qu'on fasse le lien avec le projet à l'intérieur duquel s'inscrit toute cette démarche en matière de transfert des connaissances, le projet « Comment tirer le meilleur des résultats de la recherche collégiale pour favoriser la réussite éducative ». On est dans une situation où on a des chercheuses, des chercheurs de collège qui se sont penchés sur différents objets qui relèvent de l'enseignement collégial et qui pourraient avoir être bénéfiques justement pour la réussite éducative. C'est le pari qu'on a pris en mettant ce projet sur pied, en voulant que ces résultats servent bien davantage qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Et les chercheuses et chercheurs de collège ont ça de particulier que, ben, ils font de la recherche en enseignement collégial ou sur l'enseignement collégial et ils enseignent aussi à des étudiantes et étudiants de collège. Ils font donc de la recherche sur le milieu à l'intérieur duquel ils évoluent. Donc, il y a une position différente d'autres chercheuses ou chercheurs qui pratiquent leur activité sur un autre ordre d'enseignement. Et donc, on a souhaité à l'intérieur du projet qu'ils soient formés au transfert des connaissances. Tu les as accompagnés dans un processus qui incluait aussi de faire les deux cours que l'équipe Renard a mis sur pied. Puis, on a aussi dans ce projet-là des établissements d'enseignement collégial qui veulent s'appuyer sur des résultats de recherche et tout un groupe d'organismes de soutien au réseau collégial qui veulent soutenir les uns et les autres, donc les chercheuses et chercheurs d'un côté puis les établissements de l'autre, pour faire en sorte que justement les résultats percolent dans le milieu et servent à améliorer la réussite éducative. Donc, est-ce que tu aurais quelques mots à dire par rapport à ce projet particulier?
Oui, mais oui, évidemment. Mais tu sais, un projet... Dans tous les projets, on a des choix déchirants à faire. Puis le choix déchirant qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'on avait une part du budget d'environ 10 % qui était allouée à l'évaluation en fait du projet. Donc, on aurait bien voulu examiner toutes les composantes du projet et tout ça, mais on s'est concentré plutôt sur l'évaluation de la formation puis de l'accompagnement qui a été offert aux personnes qui ont suivi nos formations en ligne et qu'on a accompagné parce que ils préparaient certains modules et puis après, on avait des réunions en virtuel, évidemment. On avait des réunions pour discuter des questions que ça leur posait, de l'intérêt pour leur pratique, des contenus qui avaient été abordés. Puis juste peut-être faire une petite parenthèse sur les contenus, c'est que la première formation porte sur une introduction au transfert de connaissances. Donc, on démêle les concepts de base et puis on regarde qu'est-ce que la recherche nous dit par rapport à l'efficacité de certaines stratégies, de certains mécanismes de transfert de connaissances. Et puis après, on faisait un survol des différents outils, activités et stratégie de transfert. Donc, on a présenté puis on a discuté de l'efficacité des notes de politique, des infographies, des capsules vidéo, des ateliers délibératifs, des présentations orales aussi. Et on regardait comment ces contenus-là pouvaient être utiles aux gens qui suivaient la formation. Et après, il y avait la deuxième formation qui portait, elle, sur la préparation d'une note de politique. Cette formation-là est beaucoup plus pratique. Elle est axée sur comment on arrive à produire une note. Donc, c'est vraiment un développement d'habileté plus que de connaissances dans ce cas-ci. On a offert un accompagnement aux participants et participantes qui souhaitaient élaborer un outil, par exemple une note de politique, puis on faisait des rétroactions avec ma conseillère principale de recherche et moi-même. On a fait des allers-retours avec certaines participantes pour faire des commentaires sur leur outil. Et maintenant, on est à évaluer ça. Donc, on a prévu des entrevues avec toutes ces personnes-là, mais aussi parce que les ressources dont on disposait nous permettait d'aller un peu plus loin avec d'autres personnes dans les mêmes organisations qui pourront nous parler de ce qu'ils considèrent qu'on devrait faire de plus pour que la recherche au collégial soit utilisée. Donc, les entrevues sont en cours actuellement. On vient de commencer très récemment là, et ça va se poursuivre en début d'année. On aura donc un corpus de connaissances, je pense, qui va être intéressant pour nous, bien sûr, mais surtout pour les organisations partenaires du projet qui auront un son de cloche structuré puis systématique parce qu'on va analyser ces données-là avec les méthodes les plus rigoureuses qu'on connaît et on va présenter ça de la façon la plus appropriée possible, évidemment.
Merci beaucoup. Merci à la fois pour tout ce travail qui sert à l'avancement des connaissances sur le transfert des connaissances, justement. Merci pour ta participation au projet, pour l'accompagnement des chercheuses et chercheurs, mais aussi pour tous les bénéfices que vont pouvoir en tirer les principales parties prenantes là, dans le cadre du projet. Et merci encore chaleureusement pour m'avoir accordé du temps aujourd'hui pour qu'on parle de transfert des connaissances et de l'équipe Renard.
C'était avec grand plaisir. Merci, Lynn.
Nous tenons à remercier Christian Dagenais et Lynn Lapostole pour cette discussion instructive à propos du transfert de connaissances.
Tirer le meilleur de la recherche collégiale vous est présenté par le Centre de transfert pour la réussite éducative, qui est le promoteur du projet, et l'Association pour la recherche au collégial, qui en est le partenaire principal.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.
Ce balado a été réalisé par l'École supérieure en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière, sous la supervision de l'enseignante et chercheuse Sophie Beauparlant.
Je m'appelle Nicolas Plourde.
Et moi, Léa Compartino. Nous étudions tous les deux à l'École supérieure d'art et technologie des médias, en animation et production radiophonique.
L'équipe du projet Tirer le meilleur de la recherche collégiale vous donne rendez-vous pour les prochains balados.